Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, qu'apprend-on à l'école et ailleurs ? Pendant longtemps, l'école a eu le monopole en matière de formation, allant jusqu'à imposer ses modalités d'apprentissage, que l'on place souvent sous la notion de forme scolaire, et des savoirs, à travers des programmes et des disciplines scolaires qu'il fallait transmettre aux élèves. Si l'école garde encore aujourd'hui le monopole de la collation des grades, en matière de savoir et de compétences, elle est fortement concurrencée par d'autres canaux de diffusion, mais aussi par une diversité toujours plus grande d'acteurs éducatifs, publics comme privés, qui ont trouvé leur place dans le marché scolaire. Dans tous les cas, on peut affirmer que cette école, sans doute un peu mythique, reste close sur elle-même et désormais obsolète. D'autant que, sous l'effet de la massification scolaire et de l'allongement des études, elle a subi un double mouvement. D'abord, les publics scolaires se sont diversifiés avec l'arrivée de ce qu'on pourrait appeler de nouveaux élèves, ayant une maîtrise qui peut s'avérer très relative des codes qui organisent les études, provoquant de profondes et de durables inégalités dans les destins scolaires. Et d'autre part, les frontières de l'école, qui semblaient évidentes il y a encore quelques décennies, ne le sont plus, en tout cas plus autant, provoquant ainsi la circulation d'objets et de savoirs entre le monde scolaire et la société, à l'origine de toute une série de malentendus. Il nous semble en tout cas important de sortir ici de la caricature et de l'opposition entre une école pensée comme un sanctuaire, hermétique à tout ce qui viendrait de la société, et une école perméable à tout ce que la société pourrait lui prescrire. Bref, qu'est-ce qu'une école qui serait à la fois ancrée sur son époque, tout en conservant ses objets fondamentaux ? Car en définitive, la question que nous posons et que nous ne manquerons pas de poser à nos deux invités est la suivante. Quelles sont les continuités, mais aussi les ruptures nécessaires entre les apprentissages développés dans le cadre scolaire et ceux proposés dans d'autres environnements, familiaux, amicaux ou associatifs qui gravitent donc autour de l'école? Voilà autant de points que nous souhaitons aborder avec nos deux invités qui ont présidé à la conférence de consensus organisée par le CNESCO en novembre dernier autour de la problématique, ouvrez les guillemets, « Nouveaux savoirs et nouvelles compétences des jeunes, quelle construction dans et hors l'école ?» Alors nous avons le plaisir de recevoir Anne Cortier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. On vous doit notamment Grandir informé chez CEF Éditions en 2023 et vous avez co-dirigé l'ouvrage Les enfants et les écrans publié chez REDS avec Séverine Herrel dans la collection Mythes et réalités. Et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique de la revue Diversité de l'IFE. Et nous avons le plaisir de recevoir également Cédric Fluckiger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lille et membre du Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille, le CIREL. Vous êtes chercheur en didactique de l'informatique et sociologie des usages, en particulier pour les dispositifs scolaires de formation au numérique et à l'informatique. Et comme chaque mois, on retrouvera une chronique historique proposée aujourd'hui par Alban Robles. Bonjour Alban.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université catholique de Lille.
Ça manque pas d'air. Avec Régis Guyon.
Quand l'école s'ouvre et quand elle conquiert le reste du monde, il faut évidemment s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement réciproque. L'école a gagné la bataille de la formation dans notre pays, du monopole de la collation des grades, etc., etc. Et du coup, elle a, alors, toutes ces descriptions qui ont été faites par Antoine Pro et d'autres sur la pédagogisation de la vie, notamment dans les familles de cadres supérieurs, le fait qu'on est un des rares pays dans lequel on peut faire une dictée invraisemblable, que des gens suivent en direct à la télé et ont un plaisir à voir des notes catastrophiques. Donc ça, c'est quand même un phénomène assez franco-français de victoire d'une forme scolaire qui s'est imposée dans les jeux, dans toutes sortes de choses, qui en a adopté les schémas. Mais évidemment, on ne peut pas imaginer que quand on ouvre l'école, on l'ouvre dans un seul sens. Les flux et les reflux vont se faire pour les raisons que j'ai évoquées aussi tout à l'heure de déclôturation d'un certain nombre de choses. Alors après, c'est extrêmement difficile de savoir qui influence l'autre, parce qu'on est un peu comme des particules dont on parlait tout à l'heure hors micro. On est dans une espèce de brouillage dans lequel on ne sait pas. Je pense que certains modes conviviaux, certains modes qui consistent à dire que par exemple on ne peut pas apprendre sans jouer, viennent évidemment à la fois de réflexions pédagogiques, mais aussi du monde périscolaire dans lequel rappelle, les ludothèques, etc., n'ont pas souci de faire apprendre des équations, mais de faire en sorte que les élèves se développent d'autres manières. Donc,
ça... Alors, ça se finit de façon un peu abrupte, parce que c'est un extrait d'un entretien que j'ai réalisé avec Patrick Rayoux il y a presque 10 ans, en 2015, à l'occasion d'un numéro de diversité que, justement, j'avais réalisé sur les temps des apprentissages et sur la question des continuités éducatives. Donc, c'est un numéro de 2016, le 183, où il pose la question, et c'était à l'occasion d'un ouvrage qui venait de publier autour des frontières de l'école. Alors, la première question, parce qu'il me semble que cette question des nouveaux savoirs, nouvelles compétences construites dans ou à l'extérieur de l'école pose cette question de la circulation. Quels sont les éléments que vous retenez de cette intervention de Patrick Rayoux autour de cette circulation qui va dans les deux sens, Anne Cordier ?
Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que pointe Patrick Rayoux, c'est évidemment la question de l'inter-influence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer d'un côté soit un passage de l'extérieur, entre guillemets, à l'intérieur de l'école, soit un passage de l'intérieur à l'extérieur. De fait, tout se répond, mais aussi s'enrichit. Par contre, je dirais que par rapport à ce que dit Patrick Rayoux, ce qui me frappe, c'est quand même l'emploi d'un espèce de champ lexical un peu de la conquête, de la guerre, de la bataille. L'école a gagné, a conquis, etc. Et je trouve que c'est intéressant de voir en fait l'emploi de ces termes parce que c'est révélateur de relations en tension entre l'institution scolaire, en tout cas telle qu'elle peut être perçue, et puis le monde social. Même si le terme de monde social est un peu particulier, puisque l'école est aussi un monde social et fait partie du monde. Et justement, l'école fait partie du monde. C'est-à-dire qu'il me semble que peut-être en cela, la réflexion de la conférence de consensus 2024, j'espère en tout cas, fera aussi avancer les choses, c'est qu'il y a cette volonté de ne pas considérer qu'il y a là matière à tension dans le sens rupture, mais qui a plutôt matière à réflexion sur des continuités qui n'empêchent pas de penser des temps spécifiques avec des apprentissages consacrés différemment aussi, parce que c'est une nécessité, mais il y a aussi la volonté de voir la circulation des savoirs comme un levier pour l'enrichissement de l'institution scolaire, comme de ses acteurs, et aussi de la société en général.
Même question, Cédric Fluquier.
Alors, ce que j'ai trouvé remarquable et intéressant dans cet extrait, c'est que effectivement, on vit dans une société où l'école, c'est une évidence. L'école, elle est là et elle marque de son empreinte toute une partie de la vie sociale. Ne serait-ce que apprendre à respecter des horaires, hein, qui est une des choses qu'on apprend à l'école et qui est nécessaire pour un travail collectif dans des entreprises ou des administrations. Et puis cette forme scolaire qui a envahi, il le dit très bien, toute la société, les clubs de sport et un certain nombre d'activités. Et ce qu'on observe, c'est que alors que on promet régulièrement que la forme scolaire va bouger, va être impactée par les technologies, et ben finalement elle est extrêmement robuste, elle perdure, elle résiste. Et ce qui résiste au fond et qui est au fond ce qui fait l'essence de la forme scolaire, c'est que c'est une rupture. La forme scolaire, c'est une rupture d'avec les activités quotidiennes, à la fois physiques. Une école a des frontières, des grilles, des portes temporelles. Il y a des horaires, des moments où on est en vacances et des moments où on est à l'école. Mais c'est une rupture qui permet de finalement mieux revenir à l'extrascolaire. Et c'est pour ça que on est toujours embêté à dire est-ce que c'est surtout de la rupture ou surtout de la continuité. C'est les deux. Parce que cette rupture, dans les premiers propos, vous avez dit peut-être une école mythique. C'est vrai qu'on a parfois cette image qui nous vient de l'école avant, c'était complètement séparé de... Non, ça a toujours été lié à toute la vie. L'école a toujours eu à cœur de former des citoyens investis, ouverts, engagés, critiques. Voilà. Mais l'école, elle le fait d'une certaine manière en organisant des activités qui ne sont pas les activités de la vie sociale ordinaire et notamment les activités productives.
Oui, et après, en même temps, d'autres diraient que la forme scolaire s'exporte et arrive dans d'autres champs, y compris familiaux. Il se trouve que finalement, il y a moins d'espace qui développe d'autres types de savoirs et de compétences qui ne sont pas au service de la réussite scolaire. et qui joue à d'autres types de socialisation ou peut s'apprendre d'autres choses sans les instrumentaliser, si je puis exagérer un tout petit peu le trait, pour qu'ils soient orientés pour réussir à l'école. Et l'exemple du jeu qui est donné, ou l'exemple des écrans, ou l'exemple... Voilà, on peut prendre plein d'exemples comme ça, ou la lecture, ce que Stéphane Bonnery a longuement illustré sur la littérature jeunesse et le livre pour enfants, voilà, où on surinvestit des formats qui sont plutôt familiaux, informels, mais avec une orientation qui pose des prédispositions au travail scolaire, avec cette intention-là en tout cas.
Je me permets de réagir. Je pense que c'est parce qu'aussi il y a un imaginaire en fait collectif qui est que l'apprendre est nécessairement chose sérieuse, dans le sens aussi que notre société a du mal à penser le plaisir comme étant aussi une émotion. Je pense aussi à un numéro de Diversité qui avait d'ailleurs porté sur la question des émotions et où on montrait bien combien la question du plaisir, de la joie, était en fait finalement des questions peu valorisées dans l'apprentissage et dans la vie en général. Vous prenez l'exemple des écrans, je vais m'en saisir parce que c'est ce qui évidemment me parle le plus, mais il est intéressant de voir que certaines enquêtes ou certains entre guillemets chercheurs parlent d'usage récréatif pour opposer ce qui relèverait d'usage sérieux, scolaire. En fait, on ne sait jamais trop parce qu'on ne sait pas. Ils disent pas ce que c'est. Et les usages récréatifs qui seraient des usages qui ne seraient pas au service d'un apprentissage tel que projeté par ces personnes-là. Et je pense que c'est assez révélateur finalement d'une difficulté qu'on peut avoir aussi à distinguer une situation d'apprentissage, un objet d'apprentissage, les émotions que l'on ressent et qu'est-ce que c'est qu'apprendre finalement.
C'était un peu l'objectif de ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Cédric Flukiger, sur ce point-là de qui conditionne quoi et qui cherche à instrumentaliser éventuellement des dispositifs. Finalement, pour certaines familles, en tout cas, c'est un investissement pour la réussite scolaire, clairement.
Alors, effectivement, c'est quelque chose, je vais tout à fait dans le sens d'Anne Cordier. À la fois, on voit des familles qui, quelque part, scolarisent des temps familiaux.
Et on l'a vu pendant le Covid, hein. Voilà, avec une organisation sociale, enfin, les strates sociales avec des classes supérieures qui surinvestissent et voire qui refont l'école à la maison. Et puis d'autres mondes sociaux où c'était complètement impossible pour des questions de précarité bien compréhensibles.
Tout à fait. Mais j'ai trouvé intéressant que Anne Cordier insiste sur le fait que l'école n'est pas un lieu privé de toute émotion, de toute joie. Quand on interroge les élèves, il y a des joies, y compris des joies qui sont liées à des apprentissages, des souvenirs d'apprentissage. Personnellement, en tant qu'ancien élève, j'en ai. La découverte de la démonstration que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, par exemple, c'est quelque chose qui m'a émerveillé à une époque et c'est quelque chose qu'on retrouve, alors évidemment dans des proportions variées selon les élèves, mais cette tendance qu'on peut avoir parfois à opposer un monde scolaire qui serait un petit peu gris et uniforme et sans émotion et un monde extrascolaire où ce serait... les réseaux sociaux, les écrans et ce qui bouge. Et voilà, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est une des manières dont il y a des perméabilités dans les deux sens, tout à fait.
Et je voudrais me permettre de rebondir parce que ce que dit Cédric aussi, enfin moi en tout cas c'est ce que j'y vois, alors j'espère que Cédric dira pas non, mais c'est que moi ce que je trouve intéressant quand même, c'est que l'école reste une institution de référence en fait aussi. C'est ce que ça nous montre aussi tous ces débats et tous ces discours, c'est que la société a conscience de la force, de la puissance socialisatrice mais aussi émancipatrice de son école. Ce qui rend évidemment parfois un peu trop exigeant envers l'institution scolaire, hein, même souvent peut-être. Mais je pense que ça, c'est vraiment aussi important d'insister sur ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus voir dans la volonté de faire l'école ou de scolariser quelque chose de nécessairement toujours négatif. Tendre vers un modèle qui est celui de l'institution scolaire, c'est quand même aussi montrer une confiance envers cette institution dont on ne cesse pourtant parfois de dire qu'elle provoque de la défiance. Et en fait, les enfants et les adolescents qu'on rencontre aujourd'hui sont les premiers à dire leur confiance dans l'école et à dire leurs besoins de l'école et d'une structuration par l'école de temps d'apprentissage et de situations d'apprentissage qui différeront aussi parfois de celles qu'ils peuvent connaître en dehors.
Alors, juste pour faire une petite transition avec la chronique d'Alban Robles, la conférence de consensus du CNESCO s'organise autour de nouveaux savoirs, nouvelles compétences. Pourquoi avoir regardé ou avoir insisté sur la question de la nouveauté, nouveaux savoirs ? En quoi on peut trouver de nouveaux savoirs ou de nouvelles compétences qui ne seraient pas là, en fait ?
La question, elle est problématique, de fait. C'est une problématique, c'est une manière de problématiser, mais elle est problématique et chaque mot est problématique. Nouveau, effectivement, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? En tout cas, nous, en tant que chercheurs, hein, puisque dans le processus hein, de ces conférences du CNESCO, nous avons été contactés par le CNESCO pour prendre en charge cette thématique. Évidemment, nous avons trouvé que c'était problématique de se poser la question qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau, et savoir et compétences. Voilà, qu'est-ce que c'est les compétences? Je crois que c'était Jean-Paul Broncard qui disait qu'il n'y a pas d'autre notion qui est aussi polysémique dans le champ scolaire. Voilà, personne n'est d'accord sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais justement, nous, en tant que chercheurs, nous avons essayé de partir de cette question-là. Parce qu'elle est problématique, mais elle ouvre des questions intéressantes. Et effectivement, de se dire, l'école, bien évidemment, elle est soumise à des demandes et des attentes de la société qui évoluent. Et c'est normal, il y a toujours eu des attentes vis-à-vis de l'école. Ces attentes évoluent aujourd'hui à la fois sous la pression des évolutions de la société, des rapports politiques, aussi des idées politiques qui se développent, comme les idées de compétences hein, qui viennent du monde économique, hein, du monde de l'entreprise et qui sont importées vers le monde éducatif d'abord, puis de plus en plus scolaire. Et donc, nous, on a essayé de prendre cette question-là en disant, mais finalement, sur cette question-là, il y a des choses que les chercheurs ne peuvent pas vraiment dire. On n'a pas réponse à tout, des fois parce que les questions sont mal posées. Mais il y a aussi tout un tas de choses où on a des réponses, où on sait des choses et qu'est-ce qu'on peut apporter à un jury issus du monde éducatif, à la fois enseignants, personnel administratif, élèves, psychologues, qu'est-ce que des experts vont pouvoir leur apporter pour qu'ils puissent se construire une idée de ces évolutions et de vers où l'école pourrait aller. Voilà. Donc oui, moi je trouve que la question elle est problématique, mais dans un bon sens du terme aussi.
C'est une bonne introduction à la problématique que Alban Robles va développer dans sa chronique. Je vous cède la parole.
Merci beaucoup, Régis. Merci, chers collègues. L'évaluation est une activité générative de valeur en reprenant d'une part son étymologie propre et d'autre part en m'inscrivant avec plusieurs autrices et auteurs dans ce type d'approche. Comme les notions au concept de compétence et de savoir, entre guillemets, l'évaluation est aussi une activité. C'est un objet flou. Tout le monde en parle ou peut en parler, mais elle se trouve traversante de l'école et de la société, et en même temps traversée par des enjeux de l'école et de la société. C'est, en quelque sorte, un débat continu sur qu'est-ce qui compte ou devrait compter vraiment, à l'école, à la société, aux deux. Ce faisant, l'évaluation a une tendance à ramener le débat sur un plan pratique, poussé parfois loin, trop loin peut-être, au point d'en devenir ce que Lise de Mailly appelait « la technologie de l'évaluation », citation de 2012. Il me paraît opportun de ramener cette terminologie de Demailly puisque le mot technologie peut faire penser à l'innovation, mais aussi à une certaine quotidienneté qui s'est installée sur ces années du XXIe siècle dans les familles, les lieux d'éducation et de formation. Au fond, la technologie n'est plus si nouvelle que cela dans le vécu, bien que ses effets sur nos vies, eux, font encore l'objet de recherches et d'enquêtes, conduisant à apprendre de nouvelles choses sur nous. On peut penser aux travaux critiques du philosophe Éric Sadin, parlant d'une vie spectrale, ou de ceux du biologiste Olivier Hamant, évoquant et plaidant sur la robustesse comme d'un antidote à la performance que véhicule le développement technologique et ses marchands. Ce que je veux dire, c'est que les nouveautés en matière de savoir et de compétences peuvent résider non pas dans ce qui est le plus visible, le nouveau logiciel éducatif, les nouveaux équipements en classe, les nouvelles modalités pédagogiques, mais peut-être dans ce qui discrètement s'installe dans le quotidien. Et que derrière une technologie, se cache ou se voile aussi, peut-être, une vie différente que celle des pratiques ou des instruments de mesure derrière les référentiels. La vraie vie, celle qui s'apprend, se découvrent et se forment pour chacune et chacun. La technologie de l'évaluation pourrait être une approche par compétences en rodant et calibrant des compétences attendues, organisées dans un outil pratique pour, par exemple, préparer un métier. Nous le connaissons bien, notamment à travers ce qui peut s'appeler le référentiel de compétences. Mais elle pourrait être aussi au service d'un apprentissage différencié, propre à chaque élève, en mettant l'accent sur ce que l'élève vit et apprend dans ses situations, toutes ses situations. Si l'on en suit une ancienne IAIPR, Monique Jurado, cette approche par compétences, ou APC, ne se limiterait pas en ce cas à la forme scolaire traditionnelle dans l'imaginaire, mais remettrait bien sur la table les enjeux de frontières à l'école, comme le discutait Patrick Rayou dans la revue Diversité la même année, en 2016. En sommes-nous à un point où l'injonction à l'APC comme à celle d'évaluer implique des protocoles et des démarches pour veiller à sa propre qualité, c'est-à-dire au fait que ce qui est obligé doit être fait d'une « bonne façon », entre guillemets? Cette dernière serait lisible sur des instruments et des outils de pilotage, comme des référentiels, se mettant en mots, M-O-T-S, au risque qu'ils soient sans les choses, pour reprendre Éric Chauvier, soit des compétences sans les choses, ou peut-être, et j'arrive à la fin, vivons-nous une transformation encore se faisant, l'approche par compétences s'installant aux côtés des autres approches, notamment d'éducation et de formation, comme déjà ce que rappelait Tardif, un des maîtres de l'APC, en distinguant une approche qui fractionne, comme l'ancienne approche par objectif, d'une approche qui intègre, comme l'APC qu'il appelait de ses voeux, et donc intégratrice des situations diversifiées que vit l'élève, enfant, apprenant.
Merci Alban. Alors on parlait de la nouveauté avant la chronique, en quoi ces compétences et qu'est-ce que c'était de... Et vous avez souligné combien c'était une problématique intéressante. Est-ce que la question de compétence en elle-même n'est pas aussi une problématique complexe à définir et à manipuler quand il s'agit de voir ce qui se joue dedans et dehors? Cédric Flukiger?
Nous, en tant que chercheurs, par rapport à cette mode, parce que c'est quand même une mode qui est en ce moment autour des compétences, qu'on peut dire, c'est d'où est-ce que ça vient et quels effets ça a éventuellement quand on commence à les connaître. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si la notion de compétence, elle a connu un tel succès dans le monde éducatif, c'est parce que, et là je reprends les mots de Jean-Paul Broncard, qui dit c'est l'étendard d'un puissant mouvement idéologique. Il y a une idéologie derrière cette idée de compétence, et ce n'est pas un hasard si c'est porté par des institutions, notamment l'OCDE, et puis des relais après dans les différents pays. Maintenant, c'est cet étendard, mais ça correspond à un problème. C'est-à-dire que on constate que l'école... Elle de fait de moins en moins sens pour une partie des élèves. Et donc, s'est développée l'idée que peut-être en découplant un peu davantage les savoirs par rapport à leur origine, aux disciplines scientifiques savantes qui les ont produits, et en les reliant plus à des domaines avec des gros guillemets de la vie, on allait peut-être leur donner plus de sens pour les élèves. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ben là, les chercheurs vont plutôt dans le sens que c'est pas tellement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a plutôt aujourd'hui des élèves dont les parents sont les plus proches de la culture scolaire, qui arrivent à faire le tri entre ce qu'il leur est demandé en termes de compétences et à faire le lien avec les savoirs qui viennent toujours quand même des domaines scientifiques. Et puis, les élèves les plus éloignés de l'école et de la culture scolaire, pour qui finalement c'est une difficulté supplémentaire. Voilà. Donc c'est finalement le remède, il n'est pas forcément là où il y avait un problème initialement. Ça, c'est ce qu'on peut dire quand on voit la recherche. Après, est-ce que c'est nouveau? Je reprends un exemple que donnait Anne Jorot dans un texte il y a quelques années, où elle cite une des compétences qui existe aujourd'hui dans le socle commun. L'élève utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il s'emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis. Et elle fait remarquer que cette manière de rédiger, elle est faite pour sonner compétence, mais est-ce que c'est très éloigné de ce qu'on faisait avant? On appelle ça une compétence. C'est-à-dire que finalement, il y a cette injonction qui est faite, et puis, on disait tout à l'heure, l'école et la forme scolaire, c'est quand même quelque chose qui résiste assez bien, et du coup, qui reprend des choses qui se faisaient en les tournant parfois en termes de compétences. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'enseigner dans les classes? On n'en est pas très sûr. Voilà une première réaction à la chronique d'Alban.
Un cordier?
Oui, bah une seconde réaction, puisque je valide tout ce qui a été dit avant. Finalement, cette question de l'approche par compétences et plus généralement de ce qu'on va pointer comme étant des compétences dans l'école ou en dehors d'ailleurs, en fait, elle rejoint pour moi la question en fait du sens que l'élève, l'ado, l'enfant, parce qu'il faut jamais oublier du coup quand on parle d'élève, on parle aussi d'un enfant ou d'un adolescent. Quel sens il ou elle donne à l'apprentissage ou à la situation qu'il est ou à l'expérience qu'il est ou qu'elle est en train de vivre. Et cette question du sens, elle me paraît cruciale, quel que soit finalement le mode d'évaluation qui est utilisé. La vraie question, c'est dans quel paradigme de sens ça va être inscrit. Il est frappant de voir aussi combien les enfants et les adolescents sont, contrairement à ce qu'on dit, extrêmement dociles, en fait, hein, et vont accomplir un certain nombre de tâches sans parfois y mettre véritablement du sens. Et évidemment, ce que les études montrent de façon claire, hein, c'est que et Cédric l'a évoqué en partie aussi déjà, c'est que ce sont ceux qui vont être capables, bien sûr, de mettre du sens, de faire du lien entre ce qui est proposé et ce à quoi tu es censé tendre, qui vont en fait sortir leur épingle, tirer leur épingle du jeu. Et un des vrais enjeux, il me semble, c'est aussi de réussir à faire prendre conscience aux élèves, ados, etc., des compétences qu'ils peuvent avoir. Il est là aussi frappant, alors je pense notamment dans le domaine de l'information, par exemple, tant qu'à faire, je reste sur un champ que je maîtrise. Il est frappant de voir le nombre d'adolescents qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font et qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font bien, j'ajouterais aussi. Et ça, c'est parce que les compétences, pour le coup, ne sont en réalité pas nommées, voire même les activités mises en place, les supports utilisés. En fait, il y a parfois une espèce de gloubi-boulga dans lequel en fait, on évolue. C'est pas un terme très scientifique, le gloubi-boulga, mais franchement, Casimir, il avait tout bien vu, hein. Parce que cette question du gloubi-boulga, en fait, c'est véritablement aussi la question qu'on va se poser dans cette conférence. Qu'est-ce qu'on met derrière les termes? Quel sens on donne à chaque terme? Et quel sens va donner l'acteur à la situation qu'il est en train de vivre? C'est parce qu'il aura réussi à donner du sens à une pratique qu'il va réussir aussi à transférer. Et en tout cas, à lire d'autres situations et à pouvoir faire des liens.
Mais ça vaut pour la lecture dont je parlais tout à l'heure, ça vaut pour le cinéma aussi d'une certaine manière. Donc c'est la question, elle se pose fondamentalement, c'est alors ça vaut pour les écrans, pour l'informatique. Alors peut-être aussi, je suis plus sûr que la conférence aborde cette question, la question de l'IA, mais finalement tout ça est très évolutif et à une vitesse qui dépasse, j'allais dire tout entendement, mais y compris notre propre raison, et qu'on est tous pris, institutions, enseignants, élèves, parents, l'ensemble des acteurs dans ces évolutions dont on ne maîtrise pas grand-chose. Et pour autant, il faut qu'on arrive à le faire rentrer ces problématiques dans des formes d'apprentissage avec, la limite qu'on a tous en termes de maîtrise et de connaissances certaines parce qu'elles évoluent tellement vite que ce qu'on peut faire à un moment donné est remis en cause, ce qui rend le travail éducatif sacrément compliqué.
Mais super passionnant. Oui, alors certes, mais en fait, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on confond en fait les outillages, les instruments, et pour le coup, les compétences et les savoirs qui sont sous-jacents. Oui, il y a un environnement informationnel, numérique, etc., qui bouge. On est tous d'accord pour dire ça. Néanmoins, les compétences et les capacités de traitement de l'information, d'évaluation d'une source, qu'elle me soit confiée entre guillemets, par Perplexity ou par un livre que je vais trouver au CDI pour reprendre un vieil exemple entre guillemets année 2000, eh ben dans les deux cas, c'est à moi en tant que utilisateur de lire cette information, de décrypter cette source et d'être en mesure de savoir si elle est fiable, si elle est valide et si l'information qui s'y trouve sera pertinente. Donc, il y a quand même des compétences et des savoirs qui sont sous-jacents, quelle que soit l'évolution aussi de certains outils. Moi, je crois que justement, le risque qu'on a, Et c'est pour ça qu'avec Cédric, on a effectivement interrogé cette question de nouveaux savoirs, nouvelles compétences. Le risque qu'on a, c'est d'être toujours dans une espèce de course folle en disant « Ah oui, mais ça va tellement vite, ça va tellement vite ». Et bien justement, pour le coup, on va faire, comme dit Armand Strozin, décélérons, résistons aussi, et on se pose en fait. Et là, on prend conscience que quand notre adolescent, par exemple, il est en train, sur les réseaux sociaux numériques, de regarder une information, eh bien, il doit être capable d'identifier le média sur lequel il se trouve, au-delà du canal de diffusion, parce qu'il ne doit pas confondre le canal, le média et la source, et que ça, c'est des connaissances de base qui datent en sciences de l'information de bien avant, si vous me permettez l'expression, Internet, en réalité. Donc, je crois qu'il faut à la fois, bien sûr, ne pas dire oh, « rien ne change, tout va bien » et voilà, mais en même temps, il faut aussi raison garder et voir des formes de permanence dans les savoirs et dans le besoin de décrypter les situations et l'environnement dans lequel on se trouve.
Alors, je reprends l'exemple du numérique et des écrans, ce qui peut aussi... Alors, je vais me changer de point de vue, hein, qui est le point de vue de l'école et qui voit des demandes arriver, les éducations A, qui, dans la dernière édition du dictionnaire qu'a dirigé Angela Barthes, Jean-Marc Lange et Céline Chauvigné, j'ai compté à peu près une trentaine d'entrées dans ce dictionnaire, qui sont autant d'objets légitimes, j'allais dire, dont il faut s'en occuper. Hein. On parle de l'éducation à la sexualité, l'éducation à la citoyenneté, à la transition écologique, etc. Autant de sujets importants. Et la question, c'est est-ce qu'on les prend, comme vous venez de le décrire, Anne Cordier, finalement, sur des angles peut-être un peu méthodologiques de base, se disant, ben voilà, ces objets, on peut les aborder sous ces... Ou est-ce qu'ils sont de nature tellement spécifique qu'il faut aussi imaginer un enseignement, et je sais que sur le numérique, il y a peut-être encore, est-ce qu'il faut enseigner avec ou enseigner le numérique ? Voilà, donc on est aussi dans ces tensions qui existent au sein de l'école Cédric Flukiger.
Oui, alors il y a effectivement cette arrivée de plus en plus importante, alors qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein, ça fait déjà au moins une quinzaine d'années hein, qu'il y a des éducations A qui arrivent, c'est quelque chose qui procède finalement du même mouvement que les compétences. C'est une autre manière d'organiser finalement les savoirs en les organisant moins par leur origine, d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'on sait ce qu'on sait, c'est-à-dire dans quel domaine disciplinaire on a construit cette connaissance.
Du point de vue de la recherche académique, vous voulez dire hein.
Oui, c'est voilà que... La tendance, elle est d'organiser les contenus scolaires de plus en plus par à quoi ça va pouvoir servir, donc par leur aval plutôt que par leur amont. Mais enfin, ça change pas tellement la nature des contenus eux-mêmes. Ça change leur organisation et ça peut rendre plus ou moins lisible ou plus ou moins avec une cohérence épistémologique les contenus. Voilà, dans une discipline, il y avait une cohérence qui était construite par la discipline. Là, elle est à reconstruire et un des problèmes Et je trouve qu'effectivement, ce dictionnaire des éducations orales l'illustre, c'est qu'il y a une espèce de balkanisation des contenus scolaires dans des sous-domaines. Et on peut se demander finalement quelle est la transférabilité de ce qui va s'apprendre quelque part. On a tendance généralement à beaucoup exagérer la transférabilité de ce qu'on apprend. Or, on voit bien que, par exemple, et pour reprendre le domaine de l'information dont Anne est beaucoup plus spécialiste que moi, c'est pas parce que on sait dans le cadre d'un exposé scolaire rechercher de l'information en faisant attention à la source, etc., que quand on nous dit quelque chose à la salle de sport, on va avoir la même démarche méthodologique.
Ce qui vaut pour les adultes aussi, hein.
Ce qui vaut absolument pour tout le monde, bien sûr, et ce qui est en même temps complètement normal. Mais si vous permettez, je voulais revenir un tout petit peu sur l'IA. Parce que je trouve que c'est vraiment emblématique de cette question des nouveaux savoirs et des nouvelles compétences, parce que c'est une nouvelle manière de poser une très ancienne question qui est à qui et à quoi je peux faire confiance. Parce que cette question de la confiance, ce n'est pas vrai que, y compris pour des savoirs scientifiques, nous avons refait l'épreuve nous-mêmes pour quasiment aucun savoir scientifique. Est-ce que le sucre est mauvais pour la santé ? Je n'ai aucune compétence pour le savoir. J'ai tendance à le penser et à faire confiance aux spécialistes de la nutrition qui le disent. Et la question, c'est avec l'IA, est-ce que je peux avoir confiance dans ce nouvel acteur qui arrive, c'est-à-dire à des textes maintenant qui n'ont même plus d'auteur humain. Et là, il y a quand même une rupture dans la manière dont l'humanité lit des textes. Le web avait déjà été une première rupture où on arrêtait de lire des textes qui étaient passés par des filtres éditoriaux importants avec des maisons d'édition qui sélectionnaient
des journaux,
voilà, ou des journaux avec des journalistes. Bon, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait écrire pour un coût assez modique, on pouvait se faire un serveur web de manière assez modeste. Déjà, ce qu'on a appelé le web 2, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir par les réseaux sociaux des textes qui évoluent, comme Wikipédia. Wikipédia, c'est, on n'aura pas forcément le même texte si on y va à une semaine d'intervalle et sans auteur clairement identifié. Là, on a maintenant carrément des textes qui n'ont plus d'auteur. Donc, la problématique, elle n'est pas nouvelle. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est effectivement armer, j'allais dire les jeunes, mais en réalité armer tout le monde, parce qu'on est tous confrontés à ça, pour rentrer dans un nouveau système de confiance par rapport à ces textes-là, qui vont être là, qui vont se diffuser. C'est comme si on avait voulu résister à l'arrivée des traitements de texte, c'est une bataille qui était perdue. Cet outil est là, il sera là. Et donc, il va falloir, là, pour le coup, des nouvelles compétences pour arriver à en tirer le meilleur parti. Et c'est là que, justement, je pense que l'école, elle peut en faire quelque chose. Et elle peut en faire quelque chose si elle ne se cantonne pas à la question des compétences. Il ne faut pas seulement chercher à former des élèves compétents par rapport à l'IA, mais des élèves qui comprennent ce qui se passe. C'est-à-dire des élèves qui ont une culture scientifique, technique, dans le domaine du numérique, comme on a une culture de base concernant les volcans, les virus, la tectonique des plaques. L'école donne une culture générale. Il faut absolument que dans le domaine du numérique, on ait cette culture générale et pas seulement valider une liste de compétences où on sait faire quelque chose de bien défini pour une tâche précise.
Alors, pour conclure, Anne Cordier, vous parliez tout à l'heure de la puissance de l'école. François Dubé et Marie Durubella ont sorti récemment un ouvrage. Alors, on revient un petit peu aux éléments d'introduction de cette émission, qui s'appelle « L'emprise scolaire » et qui est sous-titré « Quand trop d'écoles tuent l'éducation ». Donc, les mots sont forts, hein, « emprise » donc, il y avait des éléments guerriers dans le vocabulaire de Patrick Rayou. Là, c'est, on va encore plus loin, on parle de meurtre. Et dès l'introduction, il dit « Si l'école ne tient pas toutes ses promesses, ce n'est pas seulement parce qu'elle fonctionne mal ou parce qu'elle n'en fait pas assez, c'est aussi parce que la scolarisation intense de la société affaiblit d'autres modes de socialisation et d'apprentissage, parce qu'elle affecte les valeurs et les compétences émanant du travail lui-même, parce qu'elle engendre nécessairement des tensions et de nouvelles inégalités. » Et il finit cette partie en disant « L'école, aujourd'hui, colonise avec des guillemets la société et instaure de nouveaux clivages sociaux entre les vainqueurs et les vaincus du tri scolaire. » Alors, encore une fois, c'est un vocabulaire assez, assez fort, hein, de colonisation. On a beaucoup parlé des éléments qui, j'allais dire, étaient pris en charge par l'école avec la difficulté que ça pouvait représenter, en tout cas tous les enjeux que ça représente en termes de configuration, de réflexion. Est-ce que vous ne pensez pas que d'un autre côté, l'école est aussi, comme ils le font finalement, d'une forme de remise en cause de ce que l'éducation pouvait porter dans toute sa diversité d'approches et qu'on scolarise beaucoup trop? Donc je ne sais pas si c'était au cœur de la conférence, mais est-ce que du coup, il n'y a pas cette problématique qui se pose aussi de, finalement, l'école envahit tout et dévalorise jusqu'à ce qu'on lui demande de faire elle-même?
Il ne s'agit pas que l'école colonise ou perde du terrain, d'ailleurs, enfin voilà, mais il s'agit qu'elle ait sa juste place dans une société juste et que l'école aussi soit elle-même la plus juste possible. Donc là, c'est aussi une réponse aux travaux en sociologie, parce que je suis évidemment entièrement d'accord avec cette inquiétude qui nous préoccupe tous et toutes, en tout cas quand on souhaite véritablement que l'égalité des chances soit pas qu'un slogan, c'est effectivement de ne pas contribuer, volontairement ou non, mais je pense plutôt involontairement, à creuser des inégalités. Donc ça, c'est évidemment une certitude. Après, dans cette conférence, nous, notre réflexion, c'était d'ailleurs aussi de se demander quel rôle l'école peut avoir dans la construction des apprentissages des enfants ou des adolescents et l'articulation dans et hors l'école, mais sans considérer qu'il faille nécessairement scolariser, didactiser, en fait, tout. Et je pense que ça suppose aussi une reconnaissance beaucoup plus importante, mais pas uniquement dans l'école, mais dans la société, des différents modes de socialisation, environnement de socialisation que connaissent les enfants et les adolescents. Ce qui est, enfin, en tout cas moi, mais c'est peut-être parce que je suis, moi, j'ai pas été fascinée par, je ne sais même plus la formule mathématique qu'employait Cédric tout à l'heure, donc c'est vous dire. Mais moi, j'ai été fascinée par l'école, donc peut-être que c'est ça. Hein, mais je crois que l'école reste malgré tout et surtout avant tout une institution de référence et qu'elle doit le rester, tout en tirant profit aussi de la richesse des autres modes de socialisation, et ce dans les deux sens, parce que en réalité on voit bien aussi combien les acteurs de l'éducation populaire, les acteurs du monde culturel, les journalistes lorgnent du côté de l'école ou vont dans l'école pour aussi finalement rendre encore plus pour eux aussi ces espaces. Et donc je crois que c'est vraiment la question du dialogue qui se pose, d'un regard dans tous les cas compréhensif sur les pratiques et sur les expériences qui sont vécues, quel que soit l'espace fréquenté, et puis surtout se poser en priorité, je crois, la question du système de valeurs en fait qu'on veut défendre, ce qui serait, je crois, dramatique et qui pourrait mettre en danger d'ailleurs le système éducatif, c'est qu'il se retrouve en porte-à-faux avec un système de valeurs qui ne serait pas relayé et repensé dans l'ensemble de la société.
Cédric Flukiger.
Si la question c'est, alors quand trop d'école tue l'éducation, disent nos collègues, si la question c'est est-ce que l'école n'est pas satisfaisante, oui, tout à fait. Ça me semble une évidence. Il y a aujourd'hui tout un tas d'élèves qui n'aiment pas l'école et il faut bien dire que l'école n'aime pas beaucoup non plus. C'est une réalité. Est-ce que la force de la forme scolaire, qui, on l'a dit tout à l'heure, a tendance effectivement à déborder l'école, est-ce que ça conduit à dévaloriser d'autres savoirs, d'autres pratiques? Oui, aussi, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs ça que vise cette conférence, c'est comment finalement l'école pourrait aussi penser une meilleure intégration de tout ce qu'on fait, tout ce que parfois les jeunes font très bien, Anne Cordier le disait tout à l'heure, en dehors de l'école, comme on pourrait mieux le reconnaître. Est-ce que l'école le ferait mieux, cela, avec moins d'école? Ça, j'en suis pas certain. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment déjà, est-ce qu'on va pas déjà vers moins d'école, ne serait-ce qu'en formation professionnelle? On est arrivé, je crois, à une heure de français histoire en CAP. Est-ce qu'il faut passer à une demi-heure pour faire moins d'école? Je pense pas qu'on prendrait mieux en compte ce qu'il y a de bien, de positif, dans les pratiques des jeunes, parce qu'il y a aussi des choses bien et positives. Je suis pas sûr que ce soit ça. Mais effectivement, c'est bien le but de cette conférence, de partir d'un constat. L'école est en crise, je crois que on enfonce une porte ouverte en le disant. Notre rôle, en tout cas, à nous, et c'est comme ça qu'on a pensé notre rôle en tant que co-président de cette conférence, c'est pas de dire il faut plus ou il faut moins, etc. C'est dire, bon, ben, comment est-ce que la recherche peut alimenter la réflexion de l'école sur ce point? C'est-à-dire comment est-ce que nous, on peut contribuer à un rapport entre la recherche en éducation et les praticiens de l'éducation, et même les usagers, enfin, les élèves, hein, pour le dire dans des mots ordinaires. Comment finalement la recherche peut être dans une position qui n'est pas de vous dire quoi faire, de vous dire qu'est-ce qui est bien et pas bien, mais de vous dire, ben voilà, il y a des choses, on sait qu'il y a des choses qui marche, qu'il y a des choses, on pense que c'est une bonne idée, puis en fait, ça pose d'autres problèmes. Bon, ben, essayez d'éclairer un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop d'écoles? Moi, j'aurais pas envie de le dire comme ça, pas aujourd'hui en tout cas, mais est-ce que c'est un problème qui nous fait réfléchir? Ben, évidemment.
Donc, un grand merci à nos deux invités, Anne Cordier et Cédric Flukiger, pour cet échange passionnant. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration d'Alban Robles, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en février pour une prochaine émission qui sera consacrée à la sociologue Viviane Isambert-Jamati. Retrouvez ce podcast et tous ceux de Cas d'École sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts.